Vous écoutez
RMC.
RMC. L'Afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit, l'After qui continue avec vous pendant toute cette période sans football, bien sûr, uniquement sur RMC, à la radio, l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, avec ce soir Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Willy Sagnol est là, Willy, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
L'homme du jeudi, Jérôme Rotel également, salut Jérôme.
Salut Gilbert, salut à tous.
Tout à l'heure à 23h40, Julien Cazard nous rejoindra pour le quiz. À 23h, on aura également Coach Courbis qui sera avec nous. C'est un after spécial ce soir. After, évidemment, radio travail. Vous le savez, Daniel toujours dans sa salle à manger. Willy toujours dans son bureau.
Toujours, on bouge pas. Non. Depuis jeudi, j'ai pas bougé, non.
Et Jérôme toujours dans son canapé, évidemment. Mais attention, messieurs, parce que ce soir, un retour incroyable dans l'after. L'homme qui a été un pilier de notre émission, avant de passer le flambeau à Jérôme, il y a quelques années maintenant. Il est de retour ce soir avec nous. Eh oui, Eric Dimeco, messieurs, dames. Salut Eric.
Salut Jérôme, salut Willy, salut Daniel, salut Gilbert. Ça me fait grand plaisir. Tiens, alors je vous écoute donc régulièrement, vous le savez. Et ce qui me plaît depuis le début du confinement, c'est que Daniel parle tout doucement. Tu as remarqué, Gilbert?
Ouais. Bah... En fait, c'est technique, hein. C'est parce que je suis loin et que c'est une machine.
Eh oui, je sais, mais sinon, c'est agréable, ça. Ça m'endort le soir quand je vous écoute. Ouais. C'est agréable.
C'est pas un peu gênant quand même. Hier.
Oui.
Non, hier j'étais pas bien. C'est vrai, j'ai eu très peur, mais je me suis réveillé en pleine forme.
Ça va mieux là.
Mais j'avais la tête comme une citrouille hier. Je me suis dit, c'est bon, je suis dedans.
Voilà, écoute.
Il y a jamais les voisins qui sont venus chez vous râler le soir quand vous faites l'after et que vous criez fort, non?
Non.
Jérôme, non. Bah, Jérôme, toi, la première maison, Jérôme, elle a 400 mètres, toi, t'es tranquille.
Bah ouais, et les hectares.
Ah oui, il a de la place, à Chatou. Ouais, ouais. À Chatou, il y a de la place, toute la campagne.
Arrête de dire Chatou. Jamais j'ai mis les pieds à Chatou, je sais même pas où c'est.
Mais ta maison, elle va pas jusque là-bas? T'occupes pas une partie du 92 et une partie du 78?
Non, une partie de la forêt de Meudon, mais pas de Chatou.
Alors messieurs, évidemment, l'événement ce soir, c'est la mort de Michel Hidalgo aujourd'hui à 87 ans, l'homme qui a fait aimer le football aux Français, qui a relancé l'équipe de France entre 76 et 84. L'after de ce soir lui sera totalement consacré, on va se remémorer les grands moments de sa carrière. Et si vous êtes trop jeune pour avoir vécu cette période, eh bien on va vous raconter, vous allez voir tout ça, il y a des histoires extraordinaires. On débattra au 32-16, n'hésitez pas à nous appeler pour partager vos souvenirs de Michel Hidalgo. Le 32-16 est ouvert, le hashtag RMC Live pour nous écrire sur Twitter, Direct Studio, sur les applis RMC et RMC Sport. Évidemment, chacun d'entre nous a plus ou moins croisé Michel Hidalgo. Eric, sans doute plus longtemps que nous tous, on en parlera tout à l'heure. Coach Courbis également, qu'il a eu comme coach quand il était en équipe de France junior, figurez-vous. Mm-hmm. Il sera là à 23h, Roland. Pour nous en
c'est
parler.
C'est dur d'imaginer Roland en junior.
Eh ben pourtant.
et ça montre que Roland était un très très beau joueur. Quand il y a une équipe de France junior, quand tu es à Monaco, à l'époque, juste après. Oui. Il n'est pas champion en Roland, il est champion en Roland ou non?
Oui, je crois. Oui.
Il est champion avec Monaco?
Oui.
Ah oui, en tant que joueur. Oui,
en tant que joueur.
Oui, bien sûr.
Oui, voilà. Donc ça veut dire que tu es un grand joueur.
Il fallait déboucher.
Non, mais tout de suite.
C'était pas un poète, à mon avis, Roland.
Défenseur central, mais qui a fini plus, puisqu'à l'époque, il y avait le stoppeur et le libéro, il a fini plutôt libéro, Roland.
Donc, décroché, quoi.
Bien décroché à la fin. J'ai joué contre lui, d'ailleurs, quand il était à Toulon. Libéro, bien décroché.
On le confondait même avec le gardien à la fin.
Non, mais il envisageait, à cette époque-là, il envisageait l'équipe de France, parce que je crois que dans les défenseurs centraux, à ce moment-là, toi, Eric, tu dois mieux connaître, il doit y avoir Bosquier.
Ouais, Bernard Trésor, c'était une star mondiale, Marius. Ouais.
Marius Trésor et Roland, et d'après des souvenirs de ce qu'il me racontait, il le confirmera tout à l'heure, puisqu'il va être avec nous, il devait être quatrième considéré dans les meilleurs arrières centraux entre 72, 73, 74.
Il y avait Jean-Pierre Adams à l'époque avec Marius.
Oui, il était dans les meilleurs, et d'ailleurs s'il est dans les juniors, il se destine à l'équipe de France. Mm-hmm. Mais après des choix de carrière et de certaines destinations.
Ah, quand il y a un grand-père grec, ça peut.
Ah oui, là ça aide pas pour rester en équipe de France.
Ouais, ça peut.
Je crois qu'il aurait pu aller en équipe de Grèce, peut-être. Il a raté un truc.
Ouais.
Bon. Ah, on en reparle avec lui à 23h. Allez, on va parler de Michel Hidalgo. Tiens, je vais vous faire écouter tout de suite un petit florilège de réactions. Et puis on entendra de nombreuses interviews de Michel Hidalgo qu'il a donné à RMC pendant toutes ces années. Il est toujours disponible. Écoutez aujourd'hui les réactions après l'annonce de son décès de Bernard Lacombe, de Maxime Bossis, Yannick Stopira, Luis Fernandez, Patrick Battiston, Michel Platini. Et à la fin, on entendra même lui-même, Michel Hidalgo. C'est parti.
C'était vraiment un ami parce que il essayait toujours de décontracter l'atmosphère quand il y avait des tensions, il y avait quoi que ce soit. C'est un humaniste, quelqu'un qui, pour qui le résultat n'était pas la finalité, mais c'était surtout pour lui le plaisir de jouer ensemble avec un football chatoyant.
C'est quelqu'un qui a toujours fait toujours de l'importance à l'humain, à l'être humain, quel que soit le niveau du joueur.
Même les remplaçants, même ceux qui ne jouaient pas, ils étaient contents. Ils étaient contents de, parce que cet homme-là était un homme droit, c'était un homme juste. En le perdant, ça fait énormément de mal.
Moi, c'est une grande page qui se tourne, en même temps une page personnelle. Il y a un retour comme ça en arrière, mais en se disant, ouais, c'était vraiment sympa cette période-là, et c'était des moments magnifiques.
Voilà. Bah, dans ce monde triste en ce moment, c'est pas une bonne nouvelle de plus, quoi. Voilà, sincèrement, on vit des moments difficiles. La France vit des moments difficiles et aujourd'hui c'est un moment encore plus triste pour moi parce qu'on a perdu quelqu'un de formidable.
Mais je ne sais pas faire une hiérarchie dans les bonheurs et dans les joies. Le principal enseignement qu'on peut avoir d'une carrière de 8 ans et demi, c'est qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et surtout il faut un consensus pour réaliser quelque chose.
Alors Michel Hidalgo était malade depuis plusieurs mois, très gravement. Hein. D'ailleurs, tous les anciens là, que vous avez entendus avaient pris l'initiative il y a un mois environ d'organiser une rencontre à Marseille. Ils savaient que Michel Hidalgo allait très mal et donc ils voulaient organiser une dernière rencontre tous ensemble. Donc les anciens des équipes de France de 84, 82, 78, ils étaient à peu près tous là. C'était une surprise pour personne de savoir qu'il était très malade et que donc, malheureusement, il fallait s'attendre à une mauvaise nouvelle donc qui est tombée aujourd'hui. Et ce que déplorait Michel Platini tout à l'heure également, il était sur RMC vers 18h, c'était de dire que vu les configurations actuelles liées au coronavirus, ils ne pourront pas se rendre tous à l'enterrement de Michel Hidalgo.
Et donc
Michel Platini disait tout à l'heure que d'ores et déjà, il prévoyait une fois que la crise du coronavirus sera terminée, d'organiser un hommage pour Michel Hidalgo donc dans les semaines qui viennent. Voilà ce qu'a expliqué Michel Platini tout à l'heure. On va quand même démarrer. Il faut qu'on se rappelle quand même de ce qu'était ce gars-là. Parce que alors c'est un peu tous notre génération.
On va y passer toute la soirée de toute façon à rappeler l'importance de cet homme-là.
Je crois que Jérôme est le plus jeune d'entre nous, si je dis pas de bêtises.
Si ça se voit pas.
Voilà.
C'est pour te rassurer. Ça.
Non mais même toi, Jérôme, tu dois te souvenir que c'est l'homme qui a fait gagner le football français. Parce que c'est le truc principal, oui. C'est ça.
Oui, et puis de toute façon, même si en effet j'étais très jeune quand il a eu son heure de gloire, du moins son heure de gloire, il y en a eu plusieurs, mais l'Euro en 84, moi j'avais à peine 6 ans, donc forcément c'est dans les livres et dans les cassettes que tu te rends compte de ce qu'il a pu amener au football, ce que les joueurs, en fait il y a juste à écouter les joueurs qu'il a eu et tous ceux qui parlent de football et qui ont une relation particulière avec lui, voilà, donc c'est il était en avance sur le foot, sur le rôle de management, comment réussir à faire jouer ses équipes. C'était un amoureux du jeu. De toute façon, ça se voit à travers les équipes qu'il mettait en place en équipe de France. Oui, c'est une grande perte pour le football, même si on avance tous dans l'âge et que tu arrives à un certain âge, forcément, tu t'attends au pire au bout d'un moment. C'est un jour noir pour le football français parce que ce monsieur a tellement apporté qu'il faut vraiment, et c'est pour ça qu'on a raison de faire 2 heures sur lui parce qu'il le mérite tout simplement.
Alors il faut rappeler les gars, on va prendre les choses un peu chronologiquement hein. Et tout à l'heure on parlera du jeu, on attend Roland pour ça parce que Roland l'a eu donc comme coach et Roland va nous expliquer qu'en fait c'était un gars qui avait ses méthodes et puis surtout c'était un football flamboyant, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Il a eu une première carrière de joueur, il a eu une sélection en équipe de France, Hidalgo, c'était contre l'Italie. Il a eu une carrière de joueur notamment à l'AS Monaco qui était son principal club avec Reims. Il a joué une finale de Coupe d'Europe des clubs champions quand même avec Reims, hein, dans les années 50.
Ouais, 56, non?
Voilà, il met d'ailleurs un but dans ce, dans ce but, match. Ouais. Voilà,
de la, but de la tête.
Voilà, il perd 4-3, mais il marque. Et puis surtout, il y a cette carrière de coach. Alors, il y a un truc assez étonnant. Alors, je ne sais pas si vous avez l'explication. Moi, j'ai cherché cet après-midi. C'est qu'en fait, il devient sélectionneur sans avoir été entraîneur avant.
Bah, il prend la filière la filière fédérale, il prend quand il arrête à Monaco.
Voilà, mais il est pas, si tu veux, il a pas été entraîneur de club, il a pas été entraîneur d'une autre sélection, et tac, 76, sélection de l'équipe de France.
Alors, il faut recontextualiser l'époque Hidalgo.
Donc là, on est en 76. Ce que tu contextualises.
Il faut quand même, hier, sans le vouloir, puisqu'on connaissait pas la nouvelle, et quand Polo nous a parlé, c'était avant-hier du France-Allemagne, il faut quand même savoir que c'est Polo qui disait, je sais pas si vous vous en souvenez, mais en 82, n'oubliez pas que la France, ça ne représente rien du tout dans le foot. Alors imaginez si en 82, ça ne représente rien, ce que ça représentait en 76 quand il arrive. Le football français n'a jamais été aussi bas que quand il arrive. Ça correspond à l'épopée stéphanoise qui réveille le football en France, qui était un sport mais mort, je veux dire, il y avait les pratiquants, on était, mais c'était même pas des balbutiements, ça n'était rien du tout. Depuis 58, il s'était rien passé, la France était allée à la Coupe du Monde 66, c'était ridicule, personne la suivait, ça ne ressemblait à rien, il se passait pas grand chose. On avait été obligé d'aller chercher un sélectionneur à l'étranger, Stéphane Kovacs, tellement on avait le sentiment qu'il y avait personne qui pouvait diriger l'équipe de France. Et lui, quand il démarre son aventure avec une équipe, on va dire, composée beaucoup de on va dire l'ossature stéphanoise, et qu'il entame cette campagne de qualification pour 78, mais jamais les Bleus doivent aller à la Coupe du Monde. On n'est même plus habitués, on n'y participe pas, nous, aux grandes compétitions. Et là, il y a cette qualification. Et ça, c'est en fait, quand on doit tous livrer quel est notre sentiment sur Hidalgo, et que Jérôme dit, ça correspond à son âge, de dire j'ai vu gagner l'équipe de France avec lui. Non, moi qui a regardé le football vers 7-8 ans par là, et qui ai vu ce fameux match contre la Bulgarie, qu'après il y avait eu des BD qui étaient sortis, on m'avait offert les bandes dessinées, cette histoire je l'ai relue 1000 fois, le monsieur foot vous êtes un salaud, le
ça 3, c'est 76, hein, Bulgarie-France 76.
Mais et le match retour qui est qualificatif, c'est 77, le match retour le France-Bulgarie 3-1 avec la frappe de Platini-Lucarne, d'Alger, Rocheteau, il y avait des BD qui étaient vendus, il y avait des livres pour raconter cette histoire.
Donc là, Daniel, en 76, heureux, avait déjà 25 ans.
Non, j'avais. Mais tu lis les bandes dessinées, tu te souviens le match. Franchement, le match, quand il pleure avec le caouet bleu, mais je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Parce qu'il pleure et je me dis, j'ai conscience, je dis, mais donc, ça a l'air vraiment super important ce que je suis en train de regarder à la maison avec mon père. Là, on regarde l'équipe de France qui gagne 3-1. C'était un événement, les gens en parlaient. Le foot, on a l'impression que c'était réinventé en France. Voilà. Donc moi, plus que 84, qui effectivement l'apogée, ça y est, on gagne un truc, c'était carrément, le foot existe. Et quand j'étais gamin, moi, à l'école, avec les copains, on se disait, mais tu supportes qui? Moi, j'avais des copains qui disaient, le Brésil. Moi, je crois que pour mes 9 ans, on m'offre le maillot des Pays-Bas. On n'offrait pas le maillot de l'équipe de France, ça voulait rien dire. Ça voulait rien dire, on était supporters des sélections étrangères. C'est comme si les Bleus, ça n'existait pas, en fait.
Eric, tu confirmes?
Oui, puisque moi je suis un petit peu plus vieux que Daniel, donc l'arrivée, moi alors il y a eu Georges Boulogne avant, mais moi je me souviens très très bien de Stéphane Kovacs quand il arrive à la tête de l'équipe de France,
puisque
il avait entraîné l'Ajax.
Exactement. Donc j'avais 12 ans, 13 ans à ce moment-là, et moi j'avais un maillot de l'Ajax, Cruyff, les Pays-Bas, c'était la finale de la Coupe du Monde 74, et on était un nain. C'est-à-dire que quand en 78 l'équipe de France va faire la Coupe du Monde en Argentine, je me retrouve à regarder, donc du coup on voyait les matchs. Il n'y avait pas beaucoup de matchs à la télé à l'époque, il faut toujours s'en souvenir, parce qu'aujourd'hui il y avait la finale de la Coupe de France, et puis les Coupes d'Europe, et puis les compétitions finales, mais c'était la Coupe du Monde. Et voir l'équipe de France, puisque j'ai souvenir comme si c'était hier de ce premier match de l'équipe de France contre l'Italie, c'était contre l'Italie, le but de c'est le premier en Argentine.
En plus, il est dans l'après-midi, donc voilà. Dû rentrer de l'école ou un truc comme ça.
Exactement, voilà, parce que des fois je mélange
juste après l'école, c'était juste après l'école. l'école.
Voilà, donc avoir son équipe de France qui fait une compétition finale, c'est voilà, il a fallu attendre Michel Hidalgo, puisque on regardait les autres pays, on s'attachait aux autres pays, ou l'Italie parce que c'était le pays de mon père, ou les Pays-Bas parce qu'il y avait mon joueur préféré, mais c'était pas l'équipe de France. Et il a fallu que Michel arrive, et 78, qui est quand même un moment avec une équipe formidable malgré tout, puisque la Com, les Six, les Platoche déjà, enfin voilà quoi, ça a bercé ma jeunesse, moi, carrément. Ouais.
Alors vu qu'on fait cette façon chronologique, on est sur le début, on a ressorti quelques morceaux d'interviews, de témoignages, évidemment le concernant. Il y a une histoire absolument extraordinaire, juste avant la Coupe du Monde 78, parce que la Coupe du Monde 78, c'est une Coupe du Monde qui est très controversée, parce que c'est en Argentine, qui est une dictature, et en France, il y a un mouvement important de boycott. Et on dit, il ne faut pas y aller.
Alors déjà, qu'on n'y allait jamais.
Bah, hein. C'est ça, déjà, personne ne se qualifiait jamais. Et là, il dit, alors, il ne faut pas y aller, les droits de l'homme. Parce que c'est avec des arguments compréhensibles. Hein. Et là-dessus, Michel Hidalgo, qui est sélectionneur, se fait enlever. C'est pas une blague, pour ceux qui connaissent pas cette histoire. Il se fait enlever par des gens, en fait, qui font partie d'un mouvement contestataire, rapport à l'Argentine et à la dictature sur place. On est là avant la Coupe du Monde, bien sûr. L'enlèvement se termine assez rapidement, parce que, bon, en l'occurrence, les gars qui avaient fait ça semblaient être assez amateurs.
C'est pinicolé.
Écoutez Michel Hidalgo qui en parle, justement, de cette histoire.
Mais on m'a demandé de descendre et de suivre quelqu'un qui me menaçait avec un pistolet, de le suivre jusqu'au petit bois qui se trouvait à 50 mètres là. J'ai réagi au bout d'une quinzaine, vingtaine de mètres parce que je pensais que c'était quand même qu'il me restait que peu de temps à vivre. J'ai attrapé le canon du revolver et j'ai réussi à le reprendre. Il est tombé par terre, je l'ai repris avant lui et quand il a vu ça, il s'est sauvé et ils sont tous remontés en voiture pour démarrer et s'enfuir. Dans ce cas-là, on se demande où est le sport, que vient faire le sport dans tout cela, et cette grande joie du 16 novembre s'estomper, s'effacer d'un seul coup. Alors, je pensais surtout à ma famille, et je me suis dit, c'est pas la peine d'aller en Argentine.
Voilà, bon, au final, l'équipe de France y sera allée quand même, sans briller d'ailleurs, hein. Ça a été une première compétition, on va dire, pour voir. Les gars. Willy, t'as encore rien dit, toi. T'as bossé en plus à la Fédé, qui Hidalgo a marqué son passage évidemment à la Fédé, où on devait parler de lui. Enfin, c'est une sorte de figure tutélaire pour le monde fédéral.
Oui, oui et non. Après, là, on était sur. Tu le faisais de manière chronologique. En 78, je sortais à peine de là où tout le monde sort, donc c'était un peu compliqué. Non, c'est moi les souvenirs que j'ai sont des souvenirs oui de ce que je voyais sur avec mon père quand on regardait des matchs de temps en temps, de cassettes vidéo que j'ai pu acheter avec des j'ai dû aller je sais pas peut-être dans les années 85 86 avec les magnétoscopes tu pouvais commencer à acheter des cassettes où on te montrait des matchs un peu plus anciens, mais il a Quand on dit Hidalgo, c'était le beau jeu. Oui, c'était le beau jeu parce que les équipes sous sa direction avaient toujours une façon claire de jouer. Et ça, c'était assez au-delà du fait que oui, c'était un des premiers à remettre l'équipe de France sur le devant de la scène. Après, on sait aussi que c'est très générationnel le football. Il y a eu Platini aussi, il y a eu Gires, il y a eu Tigana, trois mecs comme ça aussi brillants en même temps. Alors aussi, oui aussi, mais ça enlève rien du tout à son mérite. Attention, hein. Mais comme je dis, c'est très générationnel. Mais non, c'est surtout
fallait-il les faire.
Voilà, mais c'est ça justement.
Tous ces milieux ensemble et tout. Quand on jouait avec 3-10 et 3 attaquants, encore fallait-il oser le faire.
Voilà, mais c'est justement ça que moi je veux mettre en avant. C'est que il avait des idées de jeu qui étaient claires. Et c'était un des premiers, c'est vrai, avoir des idées aussi claires. Mais d'ailleurs, il en parlait souvent quand il faisait des interviews et qu'on lui parlait de sa carrière, de son passé. Il parlait toujours du même personnage à chaque fois, qui était Albert Batteux. Et Albert Batteux, c'est peut-être celui qui a, je veux pas dire qui a inventé le foot en France, mais qui a permis à un moment donné.
Pas loin, Willy, parce que Reims, en fait, c'était le grand pont entre Reims et l'équipe de France.
Exactement, Batteux, Hidalgo, exactement. Et Hidalgo se disait vraiment que il se considérait lui comme un disciple de Batteux. Mais surtout, à chaque fois, alors moi, comme je vous dis, j'ai il y a une certaine époque que j'ai pas connue, mais dans toutes ses interviews et même à chaque fois que je l'ai vu, moi, il y a une chose qui me frappait, c'était, bah, c'était un mec d'une gentillesse, d'une humilité,
ça, c'est vrai que c'était
qui était même d'une discrétion absolue, vraiment aussi d'une discrétion. Combien de fois je l'ai vu dans des soirées organisées, que ça soit par la fédération, que ça soit par le CIF, qui est les internationaux de France, ou par des clubs, c'était à chaque fois, on avait l'impression qu'il était presque timide. Et moi, voilà, moi je suis triste aujourd'hui de la perte d'un homme bien. Voilà, au-delà du grand technicien, c'était un homme déjà bien. Voilà.
Tiens, on va accueillir Christophe avec nous au 32-16 qui est là, qui veut témoigner lui aussi. Salut Christophe.
Ouais, salut à toute l'équipe.
Bon, quel souvenir tu as, toi, de Michel Hidalgo ?
Ben moi, c'est très simple. En 82, j'ai 10 ans, tu vois. Donc, je me rappelle très, très bien. Je me rappelle tout, la Coupe du Monde, le frère de l'émir, tout ça. Je me rappelle très bien. Je me rappelle même le premier but de Brian Robson pour l'Angleterre, le but très rapide, là. Mmh. Voilà. Mais comme disait Daniel tout à l'heure, je rejoins ce que disait Daniel. 84, c'est la victoire. Mais 82, c'est la renaissance du football français, quoi. Et moi, c'était pareil, ça m'a fait le même effet. Hidalgo, c'est mon entraîneur de cœur, quoi. Voilà, c'est 82, j'étais minot. En demi-finale, quand on perd contre l'Allemagne, à la fin, je pleure. Je peux te dire exactement l'endroit où j'étais, avec qui j'étais, quoi. Je m'en rappelle, mais comme maintenant, quoi. Ça m'a marqué, mais à vie, quoi. Et là, il y a eu une rediffusion il n'y a pas longtemps. J'ai pas voulu regarder la télévision. J'ai pas regardé volontairement. Mes potes, ils m'ont dit, à la rediffusion 82. J'ai dit, non, je ne regarde pas, sinon je vais casser la télé, quoi. Tu vois?
Figure-toi que Bossy, ça a raté le péno. Hein.
Ouais, non, mais d'accord, mais attends, mais Schumacher, ce qu'il a fait, c'est indescriptible. Eric, c'est un enfant de cœur.
Il n'a pas fait exprès.
Voilà.
Selon Paulo Breiter, il n'a pas fait exprès.
L'arbitre, il n'a pas vu, bien entendu, quoi. Voilà. Donc c'est du grand n'importe quoi. Mais moi, ça m'a traumatisé quand j'étais minot. Quand t'as 10 ans, que tu rêves, que tu vois tes bleus là, qui sont en train de gagner et tout, que tu penses qu'on peut gagner la Coupe du Monde, parce qu'on avait l'équipe pour la gagner, je pense. On avait vraiment l'équipe pour la gagner. Et quand tu vois ça à la fin, quand t'es minot, t'as tes illusions qui partent, quoi. Tu pleures, voilà. Et ça te marque à vie, quoi. Et
moi, alors attends, on avait l'équipe pour la gagner. Attention, hein, c'est que c'était une sacrée surprise d'aller jusqu'en demi-finale déjà. A posteriori, tu te dis, on avait une belle équipe, mais enfin, sur le moment, c'était aller en demi-finale, c'était exceptionnel.
Dis-moi, il y a deux matchs qui m'ont marqué dans l'histoire du football français, ça paraît bête. On met les Coupes du Monde et tout ça, autre chose. Il y a celui-là, deux matchs. Il y a un autre, c'est Eric, il jouait dans ce match-là. C'est pas la finale à la Coupe d'Europe, c'est le match trois jours après, c'est le 29 mai 93 contre Paris à Marseille. Ça, c'est le deuxième match qui m'a marqué. Et Basile a marqué un but de la tête d'anthologie, il est 18 mètres. Et moi, j'étais au virage nord. Et Basile marque devant nous, quoi. Pleine lucarne. C'était un truc de malade. C'est les deux matchs qui m'ont marqué, quoi. Voilà.
Bon, ben, très bien, Christophe. Merci à toi.
Merci et bon courage à tous. Et surtout, un message à tout le monde. Arrêtez de faire les cons et restez chez vous. Voilà.
Très bien, bah comme Eric, comme Daniel, Jérôme et Willy, tout le monde. Voilà, il n'y a que moi qui suis en studio, hein, donc mais c'est pour la bonne cause, évidemment. Je suis venu travailler. Et d'ailleurs, t'es où, Eric, toi? Parce que depuis plusieurs jours, chacun nous décrit un peu son quotidien là. Comment ça se passe pour toi?
Moi, je suis un petit peu plus habitué à travailler à la maison que vous, puisque pendant longtemps, j'ai travaillé de chez moi pour faire la radio. Et je suis dans mon salon parce que à l'époque, rappelle-toi, des fois, quand on bossait ensemble, on bossait en regardant les matchs, pendant les matchs. Donc, il faut être pas loin de sa télé.
Donc, ça fait des années que t'es dans ton salon, en fait.
Je bosse dans mon salon, dans mon canapé. Voilà, je vous raconte pas les détails, mais je suis en petite tenue.
Très bien. Bon, tu racontes ce que tu veux, hein, y a pas de problème.
Puis c'est bien, tu reposes le genou au moins, Eric, maintenant.
Exactement. Ouais. Mais je peux pas prendre un anti-inflammatoire, donc je suis un peu malheureux là.
Aïe.
Il faut pas.
Le Voltaren, c'est pas très bon, il paraît. Donc je souffre.
Dans quelques instants, on continue bien sûr d'évoquer la mémoire de Michel Hidalgo. On va se remémorer donc 78, 82, 86. Et puis pas mal d'anecdotes. Et puis on parlera de jeu avec Coach Courbis tout à l'heure. Bougez pas, on revient dans quelques instants avec vous, bien sûr, dans l'After.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Avec Willy Sagnol, avec Jérôme Rotten, Daniel Riolo et le retour ce soir d'Éric Dimeco qui pendant des années a brillé au firmament de l'afterfoot avant de passer au Super Moscato Show où il brille toujours, évidemment quasiment tous les jours de la semaine, vous le savez. Michel Hidalgo se sort au programme. Alors on parlait des débuts. Écoutez Michel Platini qui en parle lui aussi, c'était tout à l'heure. Il explique quel était l'état du foot français quand Michel Hidalgo est arrivé donc à la fin des années 70.
Michel Hidalgo, ce n'est pas simplement 9 années de sélectionneur, c'est 80 ans au service du football. Et comme je le dis un peu partout, Michel Hidalgo a été à la base du renouveau du football français dans les années 70 avec Fernand Sastre et Georges Boulogne, qui sont ceux qui ont recommencé à créer un système performant au niveau de l'administration de la Fédération française, mais aussi au niveau des centres de formation et de préformation dans les clubs de football. À partir de ce moment-là, le football français a énormément évolué. Bon, c'était pas très difficile parce qu'il n'y a de rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui, les victoires de la Coupe du Monde de 2018, de la Coupe du Monde de 1998, font partie de ce qu'ont laissé en héritage Michel Hidalgo, Georges Boulogne et Fernand Sastre dans les années 70. C'est eux qui ont créé tout ce système autour des clubs de football, des centres de football, etc.
Donc on peut dater le début de, on va dire, ça fait combien, ça fait 40 ans, les 40 ans de succès du foot français, ça date de là.
Michel parle de Georges Boulogne parce que vous avez parlé d'Albert Batteux, on parle de Michel Hidalgo, mais il faut parler de Boulogne qui, à ce moment-là, ils ont tous organisé et professionnalisé le foot français. Alors professionnalisé, on était déjà professionnel, mais quand on parle de formation à la française, je parle sous le contrôle de Daniel, mais c'est beaucoup par rapport à Georges Boulogne.
Boulogne, il a créé les centres de formation.
Il a créé,
après son idée de jeu, lui était en opposition à Albert Batteux, donc c'était pas vraiment un proche d'Hidalgo dans les idées. Mais dans ce qui est les structures, l'organisation du football, il a eu un rôle important dans l'administratif et la création de beaucoup de choses. Il a eu un rôle important. Après, pour ce qui est du jeu, c'est différent parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais il a fait partie de ceux qui ont, on va dire, construit pierre par pierre le football français. Ça, oui, c'est vrai.
Alors, vous voulez dire rien à voir avec la tribune, hein, Jérôme, hein, je tiens à préciser.
Non.
Pas avec la ville, quoi, non plus.
Avec la ville. Alors, il y a, juste avant qu'on parle de 78, plus en détail, il y a un truc quand même qu'il faut se souvenir également, c'est que Hidalgo a été, pendant des années, le président de l'UNFP.
Avant qu'il soit sélectionneur, il l'est.
Et en fait, c'est à l'initiative d'Hidalgo que le syndicat obtient en 69 le contrat à temps.
Le contrat à temps, ouais.
Donc en fait, c'était ce qui a été une révolution pour vous tous, messieurs les ex-footeux, parce qu'avant, c'était contrat à vie, quoi. T'avais un contrat avec un club, et si le club voulait pas que tu te tailles, tu restais, puis tu fermais ta bouche, quoi. Voilà. Donc, et c'est avec Hidalgo et les autres à l'époque, hein, il devait déjà y avoir Pia d'ailleurs dans les parages, qu'ils ont obtenu le contrat à temps, donc, qui a permis aux joueurs de changer de club de façon plus régulière, et de vous libérer, en fait, du.
C'est toute la génération de Reims du milieu des années 50, là. Parce qu'ils sont tous à le coup, hein, quand il faut monter au créneau pour justement négocier ce contrat à temps, si je me souviens bien.
Ouais, il y avait même Domenech qui était là déjà jeune. Oui, bien sûr. Tu sais, 68, quand il y a l'occupation de la Fédé, là, par les footballeurs qui disent le foot est à nous, je ne sais plus quel était le slogan, mais enfin.
Vaut mieux qu'on revienne au terrain et au jeu que l'histoire de syndicat, si t'avoues que je m'en fous complètement.
Le foot au footballeur, tu n'as jamais été très syndicat, toi.
Mais ce soir, il me semble que. Tu vois, je ne sais pas, quoi.
Bon. Alors, 78 arrive. Daniel, il faut rappeler quand même que 78, sportivement parlant, c'est un fiasco, la Coupe du Monde.
Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
C'est éliminé au premier tour.
Oui, mais c'est pas un fiasco quand tu arrives après des années de désert absolu, que tu te qualifies et se qualifier dans une Coupe du Monde où tu n'avais que 16 équipes en soi, c'était déjà très important parce que tu existais au niveau international. Et quand en plus le tirage au sort, parce que tu es un tout petit, te met avec l'Italie, qui est déjà une très grosse nation du football, et le pays organisateur, l'Argentine. Et quand tu sais que le pays organisateur, déjà qu'aujourd'hui, on dit souvent qu'il est un peu avantagé, je te dis pas ce que c'était dans ces années. Là, quand
en plus, et surtout cette Coupe du Monde là, Daniel.
En plus, tu as raison. Bon, grosso modo, personne pensait que l'équipe de France sortirait de ce groupe. Évidemment que tout le monde voyait l'Italie et l'Argentine sortir. L'Italie fait premier du groupe parce que l'Italie gagne ses trois matchs. L'Argentine Et en plus, il y a ce fameux France-Argentine qui doit démarrer vers 23h et quelques avec le décalage horaire. Bon, les Français sont bien naïfs. Bon, ils se font un peu fourrer avec la main, la fausse main de Marius Trésor, qui aujourd'hui serait sifflé avec la VAR d'ailleurs. Il faut bien le dire. Mais enfin, il y a les Français en pas mal d'occasions. Les Argentins gagnent. Il y a, je sais pas si vous vous souvenez de ce match où Bertrand de Man se casse le dos sur le poteau, là, sur la frappe d'un Argentin, là. Enfin, bon, c'est un match. Il y a celui-là, il y a celui contre l'Italie où tu marques au bout de 39 secondes, mais tu perds quand même. Et t'as pas l'impression que de toute façon tu vas être plus fort que ces équipes-là, quoi. Et donc, je crois pas que ce soit un échec. C'est une sorte de, j'ai fait connaissance avec la compétition. Et 16 équipes dans une Coupe du Monde, faut voir ce que c'est, hein. Fallait se qualifier. Ça veut dire, dans le groupe, t'es déjà dans le groupe de qualif, ça a rien à voir avec aujourd'hui où tu joues contre que des pimpins. À l'époque, tu jouais déjà contre des énormes équipes quand tu devais te qualifier.
Alors déjà, à l'époque, il y avait deux fois moins de pays, puisque t'avais pas eu l'éclatement de la Yougoslavie.
Regarde, déjà en 82, contre qui, pour aller à la Coupe du Monde, il fallait que tu passes devant la Belgique, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'était une énorme équipe à l'époque. Quand tu retrouvais ça dans ton équipe, dans ta phase de qualif, t'étais pas bien.
Hein. Ah, déjà, la France a raté l'Euro 80 quand même. Hein. Ça, on le passe un peu.
Mais,
voilà,
mais, c'est, mais ça, c'est pareil. Mais ça, c'est pareil. C'est injouable. Il y avait quoi? Il y avait combien d'équipes à l'Euro? Il y avait 8 équipes. C'était super chaud de faire les compètes. C'est plus du tout comme maintenant. Ça n'a rien à voir. Il faut vraiment redimensionner et comprendre que c'était très dur pour un pays comme la France où t'avais aucune équipe qui faisait. Enfin, si t'avais l'épopée stéphanoise et l'épopée bastiaise pour dire que t'existais en Coupe d'Europe dans ces années-là. Mais c'était des épiphénomènes à l'époque. Alors, par rapport les Belges étaient forts en club et en équipe nationale. Les Anglais, les Italiens, les Espagnols. Enfin, tout le monde était fort autour de nous. On avait un retard monstrueux.
On a parlé rapidement du Bulgarie-France qui était le premier grand match de Michel Hidalgo donc en 76 et ce match-là en fait on a un peu oublié Hidalgo parce que c'est le soir où Thierry Roland suite à
en fait,
bon, voilà suite ouais, à
faire 2-2 en Bulgarie c'était déjà un énorme résultat.
En fait, l'arbitre siffle la pénalty pour les Bulgares, alors qu'il n'y avait jamais pénalty, en gros, et la France menait 2-1. Donc, le pénalty est transformé, ça fait 2-2. Et là, Thierry Roland dit, le mec s'appelait Monsieur Foot, ça s'invente pas pour un arbitre. Et il dit, Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Alors, imagine qu'aujourd'hui.
Tu n'as pas le son de ça, parce que c'est mieux, le son. Je sais pas que tu le fais moins bien, mais Thierry Roland, il le fait bien.
On va essayer de le trouver. j'imagine pas Jérôme Rotten ou Eric Dimeco sur RMC Sport 1, tu vois, là, en Ligue des Champions, nous faire une Thierry Roland. En 2020
Je pense que c'est assez compliqué de retrouver des arbitres qui faisaient des arbitrages domicile comme dans ces années-là. Années-là, tu avais des arbitrages domicile de malade, hein, quand même.
Et ce qui était fantastique avec cette histoire de Thierry Roland, c'est que, évidemment, tout le monde est choqué devant sa télé à l'époque. C'était en noir et blanc, il n'y avait pas souvent du foot. Mais c'est qui ce dingo là qui dit ça à la télé et tout. Et donc, la chaîne veut le virer.
Oui.
Et la chaîne reçoit des dizaines de lettres de soutien en disant oui, il a raison, l'arbitre il nous a enfumé, etc. Et donc ils ont gardé Thierry Roland qui était soutenu par les téléspectateurs.
Je crois qu'il y avait Platini qui était intervenu aussi, mais je me demande si même Hidalgo n'était pas intervenu pour défendre Thierry Roland.
Bon voilà, ça c'est les histoires. Ça c'est vrai qu'il y a des histoires liées à Hidalgo comme ça qui sont absolument extraordinaires.
Mais même sur cette Coupe du Monde là en 78, c'est sur celle-là que l'équipe de France joue avec un maillot de
contre la
Hongrie avec vert et blanc arrêt. Là, j'ai souvenir moi de voilà. Après on parlera de l'émir du Koweït aussi. Fait, Koweït. Le football était quand même, c'était un autre football quand même.
Il y avait des histoires quand même.
C'est un autre football.
C'est un peu plus folklore.
Alors donc là, l'histoire, puisque tu le dis, pour ceux qui ne la connaissent pas, les plus jeunes, l'équipe de France arrive au stade et doit jouer contre la Hongrie en phase de poule. Et là, l'intendant, parce qu'il a foutu le mec, il a oublié les maillots.
Ouais.
Et donc, ils ont un jeu. Ils ont quand même un jeu.
Match, c'est le match à Mar del Plata, non?
Ouais, c'est ça. Ils ont un jeu de maillots, sauf que les Hongrois, en fait, ont la même couleur. Donc l'arbitre dit bah non, de toute façon c'est les Hongrois qui reçoivent, donc c'est à vous la France de vous adapter. Donc là ils ont pas le bon jeu de maillot, et là donc il y a un gars qui est au stade et qui dit bah attendez, moi j'ai un petit club à côté, je vais vous chercher un jeu de maillot, et hop il est parti chercher un jeu de maillot rayé vert et blanc, et ils ont joué avec ça. Et d'ailleurs il y a plusieurs de ces maillots qui sont joués dans le musée de Louis Nicolas à Montpellier. Hein.
Il avait ce maillot et
dont celui de Marc Berdol, je me souviens.
Ah Marc Berdol,
c'était fou. C'était le 10 juin à 78 à Mar del Plata.
C'est ça, Mar del Plata, d'accord.
Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est.
Et je crois que ce match était dans l'après-midi en revanche en France, parce que moi ça je me souviens très bien l'avoir vu là, un samedi après-midi, un truc comme ça je pense.
Donc là on sort à 80.
Ah oui, j'avais mon voisin d'en face qui faisait sa communion et je m'étais barré de la communion pour venir voir le match.
Ah ouais.
Je me souviens très bien.
ça se fait plus trop, ça, les communions. Je ne sais pas si tu as remarqué.
Ah bah, si, ça se fait encore. Ouais, pourquoi ça se fait ça serait plus trop?
Ça se fait plus trop.
Eh ben, ça se fait pas. Ça buzz pas, évidemment que ça se fait. Ouais, mais en tout cas, le voisin d'en face, lui, il la faisait.
Tiens, on a, puisque bah, évidemment le 32-16 est ouvert, on a Stéphane qui est avec nous. Salut Stéphane.
Ouais, salut à tous et puis merci beaucoup pour votre émission là en ces temps difficiles. Merci d'être là avec nous et puis de vous écouter en direct ou en podcast, ça fait du bien là dans cette période un peu difficile.
C'est pour ça qu'on continue, Stéphane.
Ah ouais, le club Atlético Kimberley, c'est vrai, c'était ça le club qui avait prêté le maillot vert et blanc là.
Voilà, exactement.
Alors, Kimberley Club.
Ouais. Toi, tu retiens quoi d'Hidalgo, toi, Stéphane?
Ouais, moi, juste rapidement, mais pour dire, voilà, ça renvoie déjà. C'est l'enfance, quoi. En fait, moi, je suis né en 71, donc 82, quoi. C'est tous les bons moments. Même 78, c'est la première Coupe du Monde. Je me rappelle, là, je me réveillais avec mon père. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Là, vous parliez du maillot vert et blanc. Enfin, un truc de dingue. 78, mon amour pour l'Argentine après, parce que vous voyez, moi, je suis devenu ensuite prof d'espagnol, donc j'ai un lien très fort avec l'Argentine, et je crois qu'il y a eu, il y a eu ce déclic-là très jeune, comme quoi, des fois, il y a des choses un peu folles dans la vie. Et puis, pour moi, ouais, Hidalgo, ben, c'est l'image tout simple du foot, quoi. Le foot, l'élégance, le romantisme, comme j'aime dans le football. Bon, malheureusement, qu'on voit de moins en moins. Le football pur, le football simple. Alors, je connaissais pas cette personne.
Alors, Stéphane, excuse-moi, mais ça, c'est, ouais. En fait, on tombe un peu dans les clichés parce qu'on est tous comme ben ça. Ouais. C'est le foot de quand on était gosse, on a toujours l'impression que c'était génial, romantique, machin.
Non, mais c'est parce qu'il y en avait moins et il y avait plus d'histoire. Voilà. La rareté déjà faisait l'événement.
Oui, enfin, un gamin de 20 ans aujourd'hui qui écoute l'after, il a son romantisme placé différemment. Tu vois.
Et ben alors pourquoi,
son romantisme,
alors pourquoi,
c'est Rotten en finale contre Porto à lui.
Alors pourquoi Gilbert? Alors pourquoi Gilbert?
Mais voilà, c'est autre chose.
Et ben Gilbert, pourquoi alors Gilbert, dans ces cas-là, pourquoi on ne ferait pas justement, c'est très, ce que tu viens de dire est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un soir justement une spéciale, vous avez 20 entre
spécial,
20 et 30
c'était
ans
mieux avant.
20 et 30 ans justement. Carrément. Vous êtes des jeunes, racontez-nous votre nostalgie du foot à vous. Est-ce que ouais, quand vous êtes môme, c'est-à-dire entre 10 et 12 ans et tout, vous avez des souvenirs aussi forts que les nôtres?
Ouais Daniel, je suis
moi je te parie à l'avance que ça n'est pas possible.
Daniel, ouais.
Ouais, parce que la multiplication, parce que la multiplication fait que ça dissout,
ça dissout les choses. Et l'immédiateté, j'arrive pas à le dire, pardonnez-moi, fait que aujourd'hui, des gamins, on a tous des jeunes avec nous et tout, ils ne restent pas comme nous on pouvait rester. Aujourd'hui, j'en vois plein des jeunes, ils restent un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas forcé qu'ils restent en entier devant un match. N'oublie pas qu'en NBA, c'est une révolution et je pense que ça finira par arriver. Il y a des diffuseurs qui ont acheté les droits du dernier quart-temps.
Ah ouais. Voilà.
Je pense que c'est une évolution.
Non, mais
sport,
Daniel,
et que,
quand tu
et
es,
que ça pourra
quand,
arriver.
Willy. Mais Daniel, quand tu as, c'est normal. Quand nous on était jeunes avec Jérôme, et toi t'étais un peu plus vieux, mais c'est pas grave. Quand tu avais la télé, tu avais 3, 4, 5 chaînes de télé maximum.
3, 4, donc 3, ouais.
Bah ouais. Enfin oui. Moi, heureusement, il y a M6 qui est arrivé, d'autres chaînes aussi. Mais ouais, à un moment donné, si tu veux, quand tu parlais de rareté, mais avant, quand tu avais 3 programmes de télé, eh ben, t'avais pas le choix. Si tu voulais regarder exactement la télé, eh ben, il y en avait que, t'avais le choix 1 sur 3. Ah, aujourd'hui, t'as le gars choix sur 250, 400, 500 chaînes.
La révolution, donc, forcément, pour nous tous, c'est surtout quand Canal Plus est arrivé avec le film de minuit. Voilà, plus que le foot. On va pas se mentir, quand même.
Ça a aidé.
Bah, oui.
Ah, c'est bon vieux samedi soir.
Bah, non, mais franchement.
Ah, c'est sûr que c'était comme le match du dimanche soir aujourd'hui. Hein.
Ouais. Ça faisait plus d'audience, même.
Oh, certainement, même.
Et le plus grave, c'est qu'on le regardait crypté quand on n'avait pas qu'à la plus. C'est ça, le plus grave.
Mais on arrivait à voir avec l'habitude.
Écoute, ouais, ça faisait travailler le cerveau. Hein.
Alors qu'aujourd'hui, les jeunes, ils travaillent plus le cerveau.
Tu vas sur Internet, tu trouves tout.
Ah, c'est facile, trop facile.
Stéphane, tu voulais rajouter un truc?
Non, mais ouais, c'était juste ça. Quand vous parliez du romantisme, moi, je me rappelle, vous voyez, bon, je dérive un peu, mais les années Coupe d'Europe, moi, je me souviens, et mon père, où on découvrait la baraque, et on est de Bordeaux, hein, mais quand on suivait Bastia avec Claude Papy, vous voyez, on voyait peu de matchs, en fait. C'est ça que je voulais dire. Et donc, Hidalgo, voilà, pour moi, c'est cette image-là, cette image absolue du foot. Et juste une parenthèse que j'ai dit à Max tout à l'heure. Moi, j'ai eu de la chance parce que je suis de Bordeaux. Mon oncle et ma tante avaient une radio locale quand j'étais gosse. Et en fait, voilà, j'avais la chance de côtoyer des joueurs comme Giresse, Marius Trésor, mais c'était donc c'était la même génération, mais c'était des hommes d'une simplicité. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense que je ne sais pas si on pourrait aborder des joueurs de la même façon. Moi, que j'ai pu le côtoyer au jour le jour. En fait, je dis souvent à mes gamins, mais ces types-là, c'était juste des papas, quoi. C'était des papas qui mettaient des shorts courts pour jouer au foot, mais qui étaient d'une simplicité. Et vous mangiez un steak frites avec eux, comme voilà. Et aujourd'hui, je pense que
ça, c'est pas le fauteuil. C'est pas le fauteuil qui a changé. Hein. C'est pas lui.
Non, je sais bien, Jérôme. Je t'adore, hein, mais je sais bien. Mais vous voyez, il y a une
différence. Non, mais oui.
Qui était autre, en fait. Moi, je me rappelle, on sortait du match, il y avait Tournelle, vous vous souvenez, Tournelle à Bordeaux qui sortait avec son sac, les cheveux longs, enfin, il nous parlait comme, enfin, et on buvait, enfin, mais mon oncle buvait une bière avec lui comme si c'était un pote, c'était assez étonnant, mais c'était une autre époque, voilà, je condamne pas l'époque d'aujourd'hui, hein, mais juste pour dire, voilà, Hidalgo, c'était l'élégance, et pour moi, un homme très, très raffiné, quoi, donc c'est, voilà, c'est triste triste que, de l'avoir perdu aujourd'hui.
Merci Stéphane.
Et puis bon, mais merci pour tout, continuez vraiment, faites bien attention à vous et puis prenez que tout le monde prenez soin de vous, quoi, voilà, quoi.
Toi aussi.
Merci, à bientôt.
Salut Stéphane. Sur Direct Studio, on me signale que Jérôme Rotten, cette année en Ligue des Champions, a quand même lâché à propos d'un arbitre, mais il est aveugle celui-là. Il paraît que tu as dit ça. Oui, oui, voilà.
Ah bon.
Bah écoute, tu vois, les téléspectateurs sont attentifs. Hein.
C'est quoi quand j'ai commenté un match ?
Ouais, quand t'as commenté un match.
Ah oui, oui. Bon, oui, c'est peut-être bon, à Lille.
Ça passe. Adrien nous dit pour ça vous répondre.
Moi, ça peut arriver. Le problème, c'est qu'Eric commente les matchs du PSG. Donc forcément, même quand il y a des erreurs d'arbitrage, il n'a pas à relever. Au contraire, c'est bien. C'est bien joué.
Je suis pas obligé de répondre aux provocations.
On est d'accord.
Tu fais jamais d'émission avec Jérôme d'ailleurs en fait.
Ça fait longtemps. Non, rarement. Bon, finalement, rarement. Oui, un peu, mais pas beaucoup.
On va vous expliquer dans le quiz tout à l'heure. Julien Cazard prépare ça. Adrien nous dit, moi pour vous répondre, j'ai 23 ans. Ben moi, ma Madeleine de Proust, c'était France-Brésil 2006. Tac.
Très bien. Ça m'intéresse. Mais c'est pour ça que je te dis qu'en fait, on devrait essayer de faire justement pour que les gars nous racontent et qui justement, c'est pas bien d'être de rester dans le truc des vieux cons. Eux aussi ont des souvenirs et il faudrait les mettre en avant. Qu'est-ce qui est leur 2006, si t'as 20 ans, ouais, voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont comme souvenirs. Voilà.
Attention.
Je trouve ça chouette.
Paul Vecchio, pour une fois, a bossé. Il a retrouvé Monsieur Foot. Écoutez, c'était en 76.
Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas croyable qu'il accorde pénalty là-dessus. Mais c'est invraisemblable à 3 minutes, 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, Monsieur Foot, vous êtes un salaud.
La phrase n'a pas du tout la même valeur s'il n'y a pas avant le je n'ai pas peur de le dire. C'est ça qui.
Mais c'est vrai que ça avait été un tremblement de terre à l'époque, cette histoire de Monsieur Foot, vous êtes un salaud. C'est dingue.
Ouais. Et puis à l'époque de Nene Riolo, les jingles télé, ça donnait quand même ça. Hein. Écoutez.
Et ouais, la pub, avec la peau, avec la peau, mon.
Ah ouais. Voilà.
Antenne 2. Bon, on va parler un peu de foot quand même à propos d'Hidalgo, parce que lui-même disait très clairement, moi, quand j'ai commencé à vouloir associer Giresse et Platini, déjà, on a commencé à me dire que j'étais fou. Alors quand il en a mis 4, là, je vous dis pas, on en reparle dans quelques instants. Coach Courbis te rejoindra dans un quart d'heure pour parler de ça, parce que là, effectivement, dans le jeu, on va dire que c'est quand même 84 qui reste le plus abouti. On en parle dans quelques instants avec vous, bien sûr, ce soir, after spécial Michel Hidalgo après la disparition de l'ancien sélectionneur des Bleus aujourd'hui à l'âge de 87 ans.
RMC, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là ce soir, Willy Sagnol, Jérôme Rotten, Eric Dimeco de retour dans l'After en attendant coach Courbis qui arrive dans quelques minutes, bien sûr. Alors, Michel Hidalgo, passons vite sur 82 parce que j'ai pas envie qu'on refasse Séville. Il se trouve qu'on en a parlé ces derniers jours.
À 82, sans faire la Coupe du Monde, juste un mot sur les qualifs parce que c'est là finalement que le style Hidalgo, même si avant c'était 4-3-3, effectivement, il jouait avec 3 attaquants et à l'époque on jouait avec un ailier droit en 78, donc notamment dans la qualif, Rocheteau, Si. Et un avançant Lacombe, mais c'est durant la campagne et notamment dans ce fameux match contre les Pays-Bas qu'il y a ces trois numéros 10 qui jouent ensemble, à savoir Gires, Gengini, Platini et trois attaquants ce soir-là, Rocheteau, Lacombe et Six encore une fois. C'est quand même dans ce match en 1980, le France-Pays-Bas, le fameux Oui Michel, le coup franc, que le style Hidalgo pour moi apparaît véritablement, quoi.
Donc là, on est c'est le 18 novembre 81, la date exacte de ce match. Et donc tout ça aboutit avec à 84, où là, alors pour ceux qui n'ont pas suivi cette compétition parce qu'ils sont trop jeunes, c'est une sorte de festival de foot de l'équipe de France qui marche sur à peu près tout le monde, quoi. C'est alors il y a eu des matchs plus compliqués, la demi-finale contre le Portugal par exemple. Enfin, c'était une équipe de France étincelante.
Contre le Portugal, c'est pas que c'est compliqué, c'est plus que ça, c'est très très dur. Et perso, j'ai pas l'impression que la France était vraiment favorite et les difficultés rencontrées dans ce match, on avait surpris plus d'un.
À Marseille, d'ailleurs, ce match.
À Marseille. Moi, on parlait tout à l'heure dans le Moscato Show des matchs qu'on aimerait revivre. Celui-là est quand même dingue, quoi, dans le scénario.
Il est dingue.
Ouais, dans l'ambiance qu'il y a, il y a tout dans ce match-là, avec l'accélération de Jeannot, Tigana. Il y a tout dans ce match-là. Ouais.
D'abord, il y a les deux coups francs. Il y a le coup franc qui est tiré par Domergue et pas par Platini. Ça, déjà, pour moi, ça descend de la lune parce que personne pouvait attendre ce truc-là.
C'est le jour de Jean-François Domergue, jour-là.
Coup franc en face, alors que tout le monde s'attend à ce que ce soit Platini, parce que ça peut être personne d'autre. Domergue qui fout une patate du gauche, ça, encore aujourd'hui, à chaque fois que tu revois l'action, tu dis c'est Platini qui va tirer. Eh ben non, c'est l'autre. Voilà. Et Portugal, quand même, révélation ce soir-là de Fernando Chalana.
Chalana et Jordão qui met sa volée.
Et ensuite ira à Bordeaux quand même.
Exactement.
Il a fait son transfert sur ce match-là quand même.
Alors, 84, parlons un peu du jeu. Donc effectivement là, même aujourd'hui, je veux dire, qui va mettre comme ça plusieurs meneurs de jeu sur le terrain? Parce qu'on a toujours le souci de l'organisation, de se dire ouais, mais alors un tel, à quoi il sert dans l'équipe, les remontées de balles, les machins, les circuits préférentiels et tout. T'as l'impression qu'en fait lui, il s'est dit attends, moi j'ai des joueurs exceptionnels. Je les prends tous en fait, c'est ça. Je me pose pas la question de savoir comment si ça va le faire, ça va forcément le faire. Je schématise un peu trop ou c'est ça?
Il faut regarder aussi les contextes et les époques. En 1982, tu es encore dans un football de position, un football où les équipes attaquent pendant qu'il y en a une qui attaque, il y en a une qui défend. Quand celle qui défend récupère le ballon, bon, elle essaye d'abord de pas le perdre et après remonter petit à petit le terrain. Aujourd'hui, si tu le compares avec le foot d'aujourd'hui, comme tu es sur un jeu de transition, si tu joues avec 3 attaquants et 3 numéros 10, mais tu prends 5 buts à tous les matchs.
Vous êtes d'accord, les gars?
C'est pas le même football, oui. Effectivement, oui, il a raison. C'était des positions. C'était en gros une équipe attaque, une équipe défend. Tu récupères le ballon. Il y avait pas l'aspect physique était pas du tout. C'est pour ça que quand on voit le France-Allemagne l'autre soir là de Séville, techniquement c'est hyper propre. Tu regardes le France-Brésil de 86. Techniquement c'est supérieur à ce que tu vois aujourd'hui. Mais physiquement dans la vitesse, effectivement, même si le France-Allemagne quand même, tu l'as revu Gilbert l'autre soir, ça y va quand même.
Il y a quand même un truc, c'est
l'aspect tactique qui est différent.
Et puis surtout, à l'époque, il y avait quasiment jamais de pressing.
Dès que tu perdais le ballon, tu te replaçais.
Voilà. Tu te replaçais, t'attendais, l'équipe d'en face, elle faisait son action, tu récupérais, tu faisais ton action en fait.
Les Pays-Bas avaient quand même déjà inventé l'Ajax, le football, tu jouais haut quand même.
Ouais, mais ça a duré pendant le temps où Cruyff était là, les Pays-Bas. Après, quand Cruyff a arrêté,
Le Brésil de 82 jouait haut aussi, puisque les Italiens les avaient contrés comme ça en 82 en étant très bas, en jouant en contre.
Ouais, mais il y a joué haut.
Ça se faisait pas comme ça. Voilà.
Les Pays-Bas, c'était presque un petit peu comme le foot d'aujourd'hui. C'est-à-dire, t'avais un bloc qui montait très haut, qui essayait de récupérer un ballon tout de suite. Alors que le Brésil, le bloc était très haut, mais t'avais des défenseurs qui étaient, les lignes étaient assez écartées. Tu étais quand même dans un foot différent d'aujourd'hui, mais il allait moins vite. Mais moi, on parlait tout à l'heure de nostalgie. Moi, j'ai la nostalgie du football technique. Quand je dis football technique, tu disais tout à l'heure, je crois que c'est Daniel ou Gilbert, je sais pas qui, mais on disait il y avait très peu de mauvaises passes. Techniquement, c'était toujours propre parce que, alors c'est sûr, il y avait moins de pressing, il y avait moins d'intensité dans le match. Voilà, moins de rythme, donc tu avais plus d'énergie pour bien réussir tes gestes techniques. Il y a de grands. On voyait des gestes techniques à l'époque qui servaient à quelque chose. Aujourd'hui, on voit des gestes techniques souvent qui ne servent à rien du tout, sauf à faire lever 2-3 mecs dans une tribune. Mais avant, le vrai geste technique, c'était, comme disait Platini, c'est le contrôle. c'était déjà réussir son contrôle, réussir sa passe à 5 mètres. Et moi, je suis nostalgique de ça, oui.
Alors les gars, tiens, la finale 84 contre l'Espagne, bon, tout le monde s'en souvient, Arconada, Bellone, tout ça, chaussettes baissées sur gros mollets. On écoute juste à la fin du match. Écoutez, Michel Hidalgo à l'époque, à ce moment-là, bon bah c'est la fin quoi pour lui, c'est la fin de l'histoire.
Ouais, il
arrive enfin à gagner quelque chose. Et on va écouter l'interview à chaud. C'est marrant parce que il y a Luis à côté de lui à ce moment-là d'ailleurs. Qui fait le guignol comme d'habitude. Et en fait, c'est marrant parce qu'il n'est pas, c'est pas la folie furieuse non plus. On écoute.
Ah, vous savez, pour l'instant, je vis encore comme si j'étais le responsable. Je sais que demain matin, ça sera peut-être difficile, ça sera dur dans 8 jours, dans un mois, il me manquera quelque chose. Mais c'est une sorte de roman et je voulais qu'il se termine comme une grande histoire d'amour par une belle fin. Il y a eu ce rêve et je crois que je suis comblé. C'est vrai que dans quelques temps, il me manquera l'équipe nationale.
Voilà, donc là, il s'en va. Et alors, quelques semaines plus tard, Laurent Fabius, nouveau Premier ministre, lui propose d'être ministre des Sports. Voilà, puis il refuse.
Voilà. Il a dit ensuite avoir regretté ce refus, mais il a pas eu lui disait, j'ai pas eu le temps de m'organiser. Quand on me l'a proposé, c'était un petit peu dur. Il a refusé parce qu'il se sentait pas prêt, mais ensuite il a dit, je regrette de pas avoir accepté.
On connaît ça, sa personnalité, sa gentillesse et sa droiture.
C'était,
je sais pas s'il aurait fait
bon pour lui. Hein,
voilà, je suis pas sûr qu'il aurait fait long feu dans ce milieu-là.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
Alors tiens, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent l'After, mais là je vous propose d'accueillir Francis, qui est un peu moins jeune.
Son prénom l'indique.
Salut Francis.
Bonjour, bonsoir.
Francis, salut, on peut donner ton âge ?
Oui, bien entendu.
Vas-y, dis-nous.
J'ai 75 ans, je suis né en 45.
Bon, et
t'en as vu des équipes de France, toi, alors ?
Ah, j'en ai vu quelques-unes, oui, bien entendu. Mais alors, moi, j'habitais au Maroc à l'époque. Hein, et je peux te dire, Daniel, parce que je t'écoutais tout à l'heure en disant c'est pas possible que ces gens, à cet âge-là, aient été aussi passionnés que toi, hein, donc que moi, tu sais, j'étais passionné et on était, par exemple, en 55, 56, j'avais 10, 11 ans, on se réunissait tous les gamins autour d'un poste de radio, puisqu'on n'avait pas de télévision, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui c'est formidable parce qu'il y a la télé, mais à l'époque il y avait Georges Briquet qui racontait le match, et on écoutait, et on suivait quand il disait vous avez un corner qui est tiré en haut et à gauche de votre poste, on regardait un poste de radio pour savoir d'où était parti le corner. Et on était comme des fous. Et au Maroc, on avait la chance d'avoir toute une... il y avait des Français d'origine espagnole, italienne, etc. Chacun, comme tu le disais justement tout à l'heure, défendait son pays d'origine. Moi, je défendais la France, j'avais des copains d'école qui défendaient l'Espagne, et on se battait pour notre drapeau. Et c'était formidable. Et la France, je peux te dire qu'il y avait beaucoup de défenseurs, de gamins qui défendaient les... Pas comme aujourd'hui, c'est certain, avec les images que l'on a, mais sans images, c'était formidable. On a eu des périodes comme ça, exceptionnelles. Et je me souviens d'Hidalgo, qui marque son troisième but. On était là devant la radio et on sautait de joie. De la même manière que toi. Voilà.
Mm-hmm. Et là, moi, je faisais pas référence à votre génération, Francis.
La radio, c'est ça qui est génial, Francis, c'est que l'image, en fait, avec la télé aujourd'hui, l'image, c'est la fin de l'imaginaire, en fait. Quand tu réfléchis bien.
On s'est inventé l'image. Écoute.
En fait, tout à l'heure, juste en préambule, je faisais pas du tout référence à votre génération. Je faisais référence aux jeunes maintenant. Quel genre de nostalgie pouvait avoir ils ont envie qu'ils nous racontent, mais pas du tout ceux de votre génération. Et pour l'histoire de la radio, je suis plus jeune, c'est vrai, mais nous aussi, il n'y avait pas tous les matchs, comme Eric le disait tout à l'heure, tous les matchs à la télé, et il y a des matchs de Coupe d'Europe, c'était à la radio, et je me souviens aussi à la radio d'avoir écouté déjà le multiplex de Ligue 1, c'était à la radio parce que c'est les matchs de Ligue 1 passaient pas à la télé. Ça doit être dur à concevoir pour des jeunes de 20-30 ans qui nous écoutent, mais c'était comme ça. Il y avait les matchs de l'équipe de France, ça passait, mais des matchs de Coupe d'Europe, mais même ne serait-ce que le Saint-Étienne Manchester United là, qui suit l'année d'après, ça doit être 78 par là, mais ça passe même pas à la télé. Ça,
Francis,
ça passe pas. Il faut écouter à la radio, c'était fou.
Merci pour ce témoignage, en tout cas, Francis.
Voilà, bonne soirée.
C'était sympa.
Bah écoute, merci Francis. Et si Daniel, tu fais cette émission au soir sur nos époques, hein, de chacun quand on avait 20 ans, quand on avait 10 ans ou 15 ans, je suis dispo.
Eh ben, hein, ce serait bien de comparer. Eh ben, j'espère qu'on fasse une sorte de comparaison de décennie à décennie pour voir comment on parle de foot.
Tu vois, Jérôme,
selon les âges.
Quand on faisait l'after avec Eric, il n'y avait pas encore la télé, on ne faisait qu'à la radio, donc tu vois, les gens ils connaissaient pas nos tronches. Enfin, Eric,
c'est
si,
vrai.
Mais pas nous.
C'est vrai.
Et après,
c'est
quand
vrai,
ils ont vu Daniel et moi, ils étaient tellement déçus qu'on a eu une baisse d'audience.
Il y a des physiques de télé quand même dans la bande, ça passe.
Ouais. Et alors tiens, vous parliez du samedi soir à minuit, je vais vous rappeler un truc, parce que quand vous n'aviez pas le décodeur, c'était ça quand même.
Voilà.
Ça faisait mal aux oreilles quand même.
Je pouvais aussi baisser le son parce que ça servait à rien d'avoir ce son.
Je reconnais. C'est Alban ça.
Sauf que pour Eric, ce son-là, ça faisait un peu les cigales du Sud. Hein.
Exactement.
Il avait l'impression d'être dehors à regarder le film.
Non, mais vous avez déjà fait, puisque vous faites des débats surtout sur les débuts.
C'est vrai que c'est Alban, c'est pas Rocco, ça faisait plus de bruit.
Non, c'est vrai. sur les débuts de l'arrivée de Canal avec les matchs tout le temps du championnat. Je sais pas si vous en avez parlé de ça, mais ça a été la vraie révolution quand même, Canal,
bien
pour
sûr.
Le foot.
Évidemment.
Pour
nous. Bien sûr.
Évidemment.
Ça a changé le
foot. Il faut surtout
le
rappeler qu'à l'époque,
et rappelle-toi que c'était
la Ligue
n'en
voulait pas de la télé.
Mais non.
Ils avaient peur.
Pas tous les matchs étaient diffusés, Gilbert. C'était
oui, parce que la Ligue ne voulait pas. Ça allait vider les stades. Donc en fait,
les premières années après 84 sur Canal, t'as que 20 matchs par saison qui sont diffusés sur 38. Hein.
Dans quelques instants, Coach Courbis va nous rejoindre. Encore un jeune, bien sûr, pour parler de Michel Hidalgo. C'est tout de suite. Bougez pas, on revient dans quelques secondes.